Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Alors que la psychanalyse s'est fondée sur les questions tournant autour de la sexualité, dans son approche de la construction et de la vie psychique des individus, quelle est ou quelle a été son approche, sa perception, des expériences spirituelles ou mystiques de ces mêmes individus ? Que dit la psychanalyse de l'articulation de ces dimensions capitales et parfois problématiques de l'existence humaine, sexualité et spiritualité ? En 2004, pour aborder ces questions, Michel Cazenave avait réuni dans Les Vivants et les Dieux un lacanien, Alain Didier Weil, et une jungienne, Marie-Laure Colonna. Une émission qui évoquait notamment Sainte Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila, hystérique selon Charcot, patronne des hystériques pour Freud, un cas d'érotomanie divine pour Lacan. Lacan qui, à Rome, devant la sculpture du Bernin, transverbération de Sainte Thérèse, se montrait catégorique. Elle jouit, Sainte Thérèse, ça ne fait pas de doute. Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, il posait d'ailleurs aussitôt ce qui est sans doute la bonne question, de quoi jouit-elle ? Les vivants et les dieux, sexualité et spiritualité selon la psychanalyse, par Michel Cazenave, en 2004, sur France Culture.
Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave.
Dans l'exploration que nous menons sur les liens problématiques entre la sexualité et la spiritualité, tel que cela a été longtemps envisagé dans l'histoire de l'humanité, et donc à la lumière à la fois des sciences humaines et des sciences des religions, nous avons entendu la semaine dernière deux jeunes femmes contemporaines s'exprimer sur ce sujet. Aujourd'hui, c'est en compagnie de psychanalystes que nous allons essayer de réfléchir afin de descendre précisément dans les strates les plus profondes de la psyché humaine. Deux psychanalystes d'ailleurs d'écoles extrêmement différentes, mais qui peuvent nous aider à jeter un œil sur ce que signifie cette rencontre entre sexualité et spiritualité telle que précisément elle a déjà été vécue dans l'histoire de l'humanité. Nous avons donc avec nous aujourd'hui Marie-Laure Colonna, psychanalyste didacticienne de la Société française de psychologie analytique, et Alain Didier Weil, qui relève de ce qu'il est convenu d'appeler la mouvance lacanienne.
Notre expérience confronte sans cesse le discours féminin à ce que j'appellerais, au-delà des grandes expériences mystiques, des grands maîtres que nous connaissons, moi j'appelle ça dans mon langage une expérience mystique quotidienne.
Dans l'histoire de la psychanalyse, en tout cas, ou des psychanalyses, il y a un point de jonction qui est assez précis, qui est en 1916. Jung a 41 ans, il écrit un texte qu'il va appeler « Les sept sermons aux morts », qui est une sorte de texte lyrique, on pourrait dire gnostique, il le disait d'ailleurs lui-même gnostique, qui est une sorte de préfiguration poétique de tout ce qu'il va théoriser par la suite. Et dans ses premières pages, il met en opposition dialectique, mais on pourrait dire au même niveau d'importance, la sexualité et la spiritualité, en reprenant la leçon platonicienne qui les montre comme des daimons qui peuvent aussi bien nous inspirer, nous vivifier que nous déchirer et nous emporter dans la passion. Et il montre justement que de la mise en ordre l'un par l'autre, de la mesure qu'on peut en faire l'un par l'autre, va aboutir à un possible épanouissement de la personnalité tout entière, à condition de ne pas se laisser prendre par la sexualité, évidemment, exclusivement, comme on l'a fait beaucoup dans ces dernières générations, ou évidemment par la spiritualité également.
Hier soir, une lettre que Lou Andrea Salomé reçoit de Freud dans les années 36, et elle lui avait fait part dans une lettre précédente de ce que elle avait la veille, elle avait eu la pluie sur le visage, le soleil sur le visage, et qu'elle avait été inondée de joie. Et le vieux Freud lui répond à quel point cet univers lui est étranger, que lui, dans sa maussaderie, il n'a pas accès à ce type de réjouissance qu'on pourrait dire élémentairement dionysiaque. La pluie, le soleil, c'est des choses qui n'est pas signifiant pour lui. Par contre, ce qui est signifiant pour lui, c'est quand le réel se donne sous forme esthétique encadrée, devant une Madone peinte par un grand peintre de la Renaissance. Et on voit tout de suite qu'une femme, sans passer par la beauté mise en cadre dans un musée, nous donne à constater une expérience esthétique immédiate qu'on reconnaît dans le au sein de la vie d'une femme. Généralement, elle appelle ça un rapport à la vie, avec tout ce que ce mot est énigmatique. Mais si on se donne la peine d'approfondir la question, nous pouvons déceler que derrière cette expérience de ce réel qu'on peut nommer la vie, se donne dans un temps comme expérience esthétique et dans un certain retournement en continuité avec une expérience d'ordre mystique.
Mais c'est ça qui est assez étonnant dans ce que vous dénotez tout de suite, Marie-Laure Colonna, c'est que sexualité et spiritualité étant chacune un daimon, comme vous le rappelez, c'est-à-dire une sorte de figure intermédiaire entre l'homme et le ciel, on ne peut pas concevoir l'une sans l'autre. Et que d'une certaine manière, ne croire qu'en la sexualité ou ne croire qu'en la spiritualité serait une vue unilatérale qui, d'une certaine manière, empêcherait précisément le développement de l'homme.
Oui, l'intérêt de la théorisation de Jung, qui remonte donc à ses 41 ans, donc il est encore très jeune dans son œuvre, c'est que, contrairement à Freud, il va justement dire que spiritualité et sexualité, ce sont des instincts dans la nature humaine, et que donc, de ce fait-là, la spiritualité n'est pas meilleure, entre guillemets, que la sexualité. Il peut, au contraire, y avoir une pathologie de la spiritualité si elle devient, par exemple, excessive, tout comme si elle était absente du développement de la personnalité.
De ce point de vue-là, Marie-Laure Colonna, dans ce rapport entre sexualité et spiritualité, est-ce qu'on peut penser que ce sont simplement deux opposés qui sont en tension, ou est-ce qu'il y a, je dirais, un point d'unité possible entre les deux ?
L'éros, c'est justement la sexualité unie à l'intérêt spirituel. quelque chose qu'on trouve plus souvent dans la psychologie féminine que dans la psychologie masculine. Alors que l'homme serait plus logique que psychologique, et donc souvent plus tourné vers des intérêts spirituels et objectifs. Mais pour Jung, dès qu'on parle d'éros, on va parler de sexualité avec une dose de spiritualité. Après tout, ça serait bien la définition de l'amour, en quelque sorte. Et c'est aussi la définition de la créativité, que de mettre de la sexualité et de la spiritualité ensemble.
Nous avons l'expérience en analyse que des femmes peuvent évoquer quand elles ont un rapport à ce qu'est le phallus de l'homme et de le phallus de l'homme qu'elles aiment, par exemple. Il arrive qu'elles puissent penser à ce phallus comme détaché du corps. Et lorsqu'elles y pensent, ce n'est pas un fantasme érotique, c'est un objet doué de beauté, de pure beauté. Une de mes patientes faisait un jour un lien que j'ai apprécié parce qu'il m'a paru assez véridique. Elle faisait un lien peut-être avec ce qui se passait dans ces cortèges dionysiaques où le phallus du dieu était érigé. Et l'intérêt de ce phallus, c'est que ce n'était pas un phallus d'ordre strictement érotique. Il pouvait le devenir, mais il était plutôt proche d'un phallus ctonien, c'est-à-dire cette puissance de vie qui surgit du fond des entrailles de la terre, des enfers, mais qui ne sont pas le côté infernal des enfers judéo-chrétiens. Et cette puissance de jaillissement de ce phallus nous donne l'idée que, pour une femme, ce phallus, qui pour l'homme est toujours lié à l'érotisme, peut être tout à fait autre chose que l'érotisme. Peut-être cette force de vie, de telle sorte qu'en somme, une femme ne correspondrait pas à ce que dit Freud en disant que la sublimation, ça implique d'avoir à renoncer au sexuel, à cause de cette discontinuité qui est chez l'homme entre l'amour et le désir. Pour une femme, il n'y a pas cette discontinuité, il y a une continuité, je dirais, de telle sorte que ce phallus qui peut être incarné, ce mode d'enthousiasme, peut aussi se retourner et prendre une signification autre, et que l'enthousiasme, le beau, peut devenir, effectivement, de faire un saut vers une dimension mystique.
Je me voyais mourir du désir de voir Dieu, et je ne savais où je devais chercher cette vie, si ce n'est dans la mort. Les transports de cet amour, sans égaler ni la véhémence ni le prix de ceux dont j'ai parlé autre part, étaient tels néanmoins que je ne savais que devenir. Rien ne répondait à mes vœux. Mon cœur à tout moment était prêt d'éclater, et il me semblait véritablement que l'on m'arrachait l'âme. Ô mon adorable maître, de quel souverain artifice, de quelle délicate industrie vous usiez à l'égard de votre misérable esclave. Vous vous teniez caché de moi, et vous me donniez en même temps les plus tendres témoignages de votre amour, par une espèce de mort si délicieuse que mon âme n'eût jamais voulu en sortir. Vie de Sainte Thérèse d'Avila.
Mais dans cette dialectique, en quelque sorte, qu'il pose de la spiritualité et de la sexualité, il y a quelque chose d'assez étonnant auquel on n'est pas habitué. Dans le discours de Jung, je pense particulièrement aux 700 remords, c'est qu'il met la sexualité du côté masculin, il met la spiritualité du côté féminin. Alors que je dirais, par tradition, nous avons culturellement été élevés à mettre la spiritualité du côté masculin.
Oui, mais Pour Jung, justement, il se réfère à l'expérience de l'homme. Et l'expérience qu'a l'homme, on pourrait dire, de son âme, et donc de son anima. Et ça ne paraît pas très étrange qu'il ait associé aux profondeurs de la féminité la spiritualité. De même qu'il va dire, en mode complémentaire, que pour la femme, il y a aussi la découverte d'un esprit, cette fois-ci au masculin, mais qui va être plus un esprit qui relie la femme au domaine de la raison et au domaine de ses intérêts objectifs, qui lui permet justement de s'assumer dans le monde, alors qu'elle a, elle, d'une façon consciente, accès à ces profondeurs de la féminité en elle.
Mais est-ce qu'en même temps, il n'y a pas, je dirais, comme une sorte de... Vous avez prononcé le mot tout à l'heure, mais de résonance gnostique dans le texte de Jung, dans la mesure où mettre la spiritualité, je dirais, du côté féminin, c'est en même temps attirer l'esprit, et disons, en toute généralité, l'esprit saint du côté du féminin, ce qui, on le sait, ça a été un des mouvements des gnostiques, mm-hmm. qui parlait de Notre-Dame ou Notre Mère, le Saint-Esprit, comme si, finalement, il y avait... disons, une face féminine du divin.
Oui, certainement. Et après les gnostiques, Jung a été bien content justement de rencontrer tous les textes alchimiques pour lesquels l'esprit est profondément lié au féminin, qui, bien sûr, est refoulé, voire forclos de la culture pendant ces siècles-là, certainement.
Alors, de ce point de vue-là, est-ce que dans ce que Jung trouve dans l'alchimie, il n'y a pas... très, très, très justement, l'écho à ce que disent les gnostiques. Je pense par exemple à un texte comme l'Évangile de Philippe, dans lequel on parle du mystère des noces, qui ont lieu dans la chambre nuptiale, ce qui fait qu'on sait très bien quelles ont été les condamnations de l'Église officielle en train de se constituer, déclarant que les gnostiques étaient des débauchés, etc. Mmh. Mais c'est-à-dire qu'il y avait une symbolique comme quoi c'était le mystère le plus fondamental, était le mystère de l'union, dans lequel il y avait... fût-ce au plan symbolique, une union, une rencontre entre spiritualité et sexualité.
Oui, certainement. Ce qu'on peut peut-être dire des gnostiques, c'est qu'à l'époque, ils n'étaient pas encore très, comment dire, capables de démêler, comme les alchimistes l'ont fait d'ailleurs aussi, enfin, on se sont emmêlés aussi là, entre le domaine du concret et le domaine du symbole, et de temps en temps, certainement, ils passaient à l'acte, d'une manière un petit peu crue, des données que, disons maintenant, on est capable, notamment dans les trajets analytiques, de symboliser. Mais ils ont été les premiers dans la culture occidentale à retrouver, après tout, les époques païennes, entre guillemets, l'avaient fait, à retrouver cet accès direct au mystère de la divinité qui passe par les profondeurs du féminin.
Alors, dans ce rapport entre sexualité et féminité, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui serait à réfléchir du côté de la mystique ? Je veux dire par là que, à travers toutes les expériences mystiques que nous pouvons connaître, on s'aperçoit que les mystiques, quel que soit le dieu auquel ils croient, quel que soit qu'il soit un homme ou qu'il soit une femme, mais pratiquement tous les mystiques ont des expériences qui sont de l'ordre de l'érotique.
Oui, bien sûr, mais quand vous dites ça, je pensais justement à Ramakrishna, dont on ne peut pas dire qu'il avait une vie sur le plan concret, sur le plan sexuel, particulièrement épanouie, mais qui, à l'intérieur de ses extases, à l'intérieur de cette rencontre du fond océanique de la divinité, avait accès à une jouissance, comme la plupart des mystiques. Évidemment, on pense à Sainte Thérèse d'Avila, à toute la mystique, à toutes les femmes de la mystique rhénane, etc. Mais... en même temps, et d'ailleurs c'est très réconfortant de se dire ça, c'est que suivant le degré de connaissance qu'on a, suivant l'âge chronologique qu'on a, on peut avoir accès dans cette conjonction entre la sexualité et la spiritualité à un domaine de jouissance, à un domaine de connaissance et d'expérience qui n'a pas de fin. Il est préférable probablement de commencer chronologiquement par l'expérience de la sexualité et au fur et à mesure du développement des âges de la vie, mettons vers 80 ans, de donner la part plus importante à la mystique plutôt qu'à l'amour concret.
Si on prend quelqu'un comme Hedwige d'Anvers, Mmh. On voit très bien dans ces strophes à quel point c'est tout le temps l'appel à la mine. À la mine, c'est-à-dire la puissance de l'amour. Bon, on sait très bien que la mine, en même temps, c'est une déesse païenne qui est en train de refaire surface. Et que, finalement, il y a cette sorte de comme vous disiez, de jouissance de la rencontre de l'aimé, ce qui fait d'ailleurs que lorsque l'aimé se retire, évidemment, on entre dans le désespoir le plus absolu. Mais où on a l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre réellement sexuel, qui est même de la fameuse phrase de Lacan à propos de Sainte Thérèse, elle jouit, elle ne fait même que ça, mmh. que d'une certaine manière, elle est, je dirais, éperdue dans la jouissance.
Oui, et ça me paraît être quelque chose qui est un donné plus immédiatement accessible à la femme, en tout cas à la femme d'aujourd'hui. Je ne dirais pas que c'est fondamental ou que c'est structurel. Je pense que c'est plus culturel, dans la mesure où on a beaucoup interdit à l'homme l'accès à sa profondeur, à ses sentiments, à sa sensibilité, même quand il s'agissait d'hommes intellectuels, artistes. Jusqu'à présent, la culture, c'est probablement ce que voulait montrer Lacan, je pense, lui fait faire un barrage très tôt dans son éducation. Donc c'est plutôt une donnée très facilement accessible à la femme. Mais je dirais qu'en analyse, au fur et à mesure d'une analyse menée dans la profondeur, on voit les hommes aussi bien que les femmes avoir accès à ce fond océanique en nous. Et qui, à ce moment-là, dans ce cas-là, dans la mesure où quand même il est conduit vers une mesure, n'est pas un désespoir de la perte. Mais après tout, au fond, le chemin de l'analyse n'est pas le même chemin que le chemin de la mystique. Probablement, pas celle que vous citez en tout cas.
Je voyais dans les mains de cet ange un long dard qui était d'or et dont la pointe en fer avait à l'extrémité un peu de feu. De temps en temps, il le plongeait au travers de mon cœur et l'enfonçait jusqu'aux entrailles. En le retirant, il semblait me les emporter avec ce dard, et me laissait tout embrasé d'amour de Dieu. La douleur de cette blessure était si vive qu'elle m'arrachait ces faibles soupirs dont je parlais naguère. Mais cet indicible martyr me faisait goûter en même temps les plus suaves délices. Aussi je ne pouvais ni en désirer la fin, ni trouver de bonheur hors de Dieu. Ce n'est pas une souffrance corporelle, mais toute spirituelle, quoique le corps ne laisse pas d'y participer à un haut degré. Vie de Sainte Thérèse d'Avila.
Alain Didier Veil, on sait que dans ces formulations, Lacan a évolué puisqu'il commence par dire qu'il n'y a pas d'acte sexuel et puis ça devient il n'y a pas de rapport sexuel, renvoyant évidemment à la discontinuité profonde finalement qu'il y a entre la jouissance phallique, disons, et cette jouissance autre dont vous nous parlez. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que d'une certaine manière, est-ce que ce ne serait pas dans, puisqu'il prend l'expérience de Sainte Thérèse d'Avila comme exemple, est-ce que ce ne serait pas dans l'expérience mystique et mystique féminine que précisément il y aurait du rapport sexuel à ceci près que c'est du sexuel qui n'en est pas.
En tout cas, c'est vrai qu'elle a certaines métaphores qui évoquent crûment parfois un phallus divin. Alors, c'est du sexuel, ça n'en est pas. Pourquoi ce phallus divin pourrait ne pas en être ? D'abord parce que ça n'est pas un pénis, c'est un phallus, c'est-à-dire c'est un pur signifiant, et que c'est ce que j'avais tenté de dire, c'est que l'existence d'un phallus qui n'est pas centré sur la sexualité, quelque chose, ça c'est d'étranger à l'homme. C'est rapidement pour ça que sans réfléchir on parle de macho, parce que c'est lié à ça. C'est-à-dire c'est que pour une femme, il y a une réversibilité. C'est-à-dire il y a une réversibilité non discontinue, c'est-à-dire qu'elle peut connaître le désir pour le phallus érigé. Elle est absolument connaissante de ce désir. Mais il y a cette réversibilité continue qui fait que, au-delà de ce qui est proprement le désir sexuel, il y a une continuité vers une expérience qui est autre, qui est la jouissance de la pure signifiance. On pourrait dire à l'extrême, je force un peu les choses, on pourrait dire une jouissance poétique absolue.
Dans la mesure où c'est une démarche psychologique, et vous nous dites, Jung considère d'une certaine façon que la psychologie relève du domaine féminin. Je dis bien du féminin, pas de l'homme ou de la femme. Le féminin en tant qu'il peut être partagé par les deux. Dans la mesure où la spiritualité, dans les 700 morts, est mise du côté du féminin, tout au moins dans son essence. Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de relation directe qui fait d'ailleurs que la sexualité de l'homme va... comment dire, s'éprouver et s'épanouir à partir de sa position féminine, c'est-à-dire qu'en fait c'est une autre sexualité que la sexualité masculine telle qu'on l'entend d'habitude.
Oui, certainement, et c'est une sexualité par exemple que les taoïstes avaient longuement, les hommes taoïstes et leurs compagnes, avaient longuement expérimenté pendant des siècles, et j'ai été très intéressée de voir qu'il y avait tout un mouvement, notamment aux États-Unis, de gens cultivés, ce sont des gens qui font partie des intellectuels en général, qui se réintéressent pour l'homme à une forme de sexualité qui est tout aussi globale que celle de la femme et qui lui permet des niveaux de jouissance qui sont tout à fait comparables, par exemple à travers des orgasmes multipliés aux orgasmes et à la jouissance de la femme. Mais c'est toute une attitude intérieure qu'il s'agit de changer en même temps. Et pour ces hommes, il s'agit de s'ouvrir autant sur le plan psychique et spirituel que sur le plan proprement sexuel à quelque chose qui, en effet, était masqué dans l'éducation masculine.
Mais c'est une question que l'on peut se poser, Marie-Laure Colonna. Est-ce que, d'une certaine manière, il s'agit de faire rentrer en harmonie la spiritualité, la sexualité et la spiritualité, ou est-ce que d'une certaine façon il y a un certain type d'expérience sexuelle qui porte en soi, si l'on peut dire, une dimension spirituelle interne?
Ben ça, je crois que tous les mystiques d'Extrême-Orient l'ont beaucoup dit, mais il y a certainement dans la relation à l'autre quelque chose que les femmes ont toujours senti, et qui ouvre sur une dimension spirituelle extrêmement profonde. Et c'est peut-être ça, bien sûr, que les niveaux de la culture masculine peuvent redécouvrir, tout en faisant bien attention, là je parle en tant qu'analyste, au fait qu'il y a aussi une pathologie de cette prégnance-là, et que les femmes, justement, ont comme caractéristique d'avoir souvent des expériences amoureuses qui peuvent les emmener trop loin et de les rendre littéralement folles d'amour, c'est-à-dire qu'à trop projeter la sexualité et la spiritualité sur l'autre, sur le bien-aimé externe, elles vont se retrouver dépossédées et prises dans des dépendances amoureuses. Un rêve qu'une jeune femme de 35 ans environ avait fait au moment où elle débutait une expérience amoureuse. Et elle avait rêvé qu'elle voyait sur un autel, on était en Grèce, dans l'Antiquité, et on voyait sur l'autel la déesse Vénus, la déesse Aphrodite. Et une longue file d'êtres humains étaient en couple, étaient venus pour adorer l'apparition de cette déesse, dont on voyait un corps extrêmement blanc sur l'autel. Et disait une voix dans le rêve à la femme qui rêvait, les gens qui sont proches de l'autel peuvent se rendre compte qu'en étant en couple et en faisant l'amour, ils honorent quelque chose de profondément sacré. Et plus on s'éloigne de l'autel, plus dans cette file d'êtres humains, les couples s'en rendent de moins en moins compte et on aboutira à quelque chose qui est un vécu sexuel sans aucune référence religieuse et sans aucun socle sur le plan spirituel. Et j'avais trouvé que ce rêve disait, en très peu d'images, quelque chose d'absolument fondamental que peut-être nous avons besoin de faire ressurgir de l'Antiquité païenne pour la restaurer aujourd'hui.
Ce qu'on a en commun, hommes et femmes, je l'aborderai volontiers par ce que c'est que de dire oui à la signifiance. Parce que qu'est-ce qu'un oui à la signifiance, un oui absolu? C'est pas du tout évident. Freud a commencé à s'approcher de la question de qu'est-ce que dire oui à l'inconscient à travers sa découverte de la négation. Il découvre qu'un homme, une femme peuvent parfaitement nier quelque chose et puis revenir sur leur négation avec le progrès de la psychanalyse et dire non à la négation. Mais ce qu'il découvre, c'est que dire non au non est l'équivalent d'un oui intellectuel, mais c'est un oui qui ne donne pas l'accès à l'inconscient, c'est-à-dire qui ne lève pas le symptôme, qui ne lève pas le refoulement. Et à partir de là, se pose la question, qu'est-ce qu'un oui qui ne serait pas un non de non? C'est-à-dire un oui qui ne vient pas de l'esprit, enfin je veux dire qui ne vient pas de l'intellect, mais qui viendrait un oui inconscient, qu'on ne décide pas comme ça de donner. Bien, ce oui, Beyaung, la Beyaung absolue, Lacan indique quelque part d'ailleurs que c'est cette Beyaung absolue qui devrait pouvoir, quand une analyse réussit parfois, ce qui arrive, ça arrive, c'est la capacité de produire ce oui, de le rencontrer. Et ce point de rencontre entre hommes et femmes, je dirais, c'est leur aptitude à l'un et l'autre, dans certaines conditions, de pouvoir trouver l'énonciation, plutôt que l'énoncé, l'énonciation de ce oui absolu. Quand nous parvenons à donner ce oui absolu, on pourrait dire que c'est l'expérience de cette jouissance autre.
Par rapport à ce que vous disiez, Marie-Laure Colonna, c'est justement parce que vous insistez beaucoup sur l'aspect culturel, et en même temps vous dites, c'est d'une certaine manière par nature que la femme, elle est ouverte à cela. Ce qui veut dire que structurellement, la femme serait plutôt quand même, je dirais, ouverte à un infini que l'homme, peut-être d'ailleurs parce qu'il est soumis à la castration, devant laquelle l'homme aurait tendance à mettre une coupure. Donc si je comprends bien, c'est comment l'homme retrouve une position féminine où il se réouvre à l'infini.
Oui.
C'est-à-dire comment est-ce qu'il adapte la structure à la culture, ou il réadapte la culture à la structure.
Mais déjà, c'est un des grands chemins que lui fait faire l'analyse, où les formes différentes de voix, de développement de lui-même, des voies de sagesse, etc., que d'aller à la rencontre de cet anima, de cette âme, de cette psyché, à travers la rencontre, ça. À certains moments, c'est plus extérieur, à certains moments, c'est plus intérieur. Mais il se crée à ce moment-là une érotique de l'âme, on pourrait dire, qui est vécue à la fois dans sa relation au monde. Jung disait que pour l'homme, c'était très difficile d'aller épouser le monde, que c'était très difficile de se résoudre à s'incarner vraiment. Et que donc, à travers cette sexualité, cette spiritualité vécue dans son couple ou dans son rapport à la vie, pour l'homme, à ce moment-là, il y a véritablement une expérience qui lui fait mettre ensemble, on pourrait dire, ce qui est de l'ordre du ciel et ce qui est de l'ordre de la terre, les profondeurs du ciel et les profondeurs de la terre, et donc dans quelque chose qui est beaucoup plus complet que ce que les pères de l'Église voyaient quand ils nous prêchaient de quitter la vie le plus tôt possible.
Alors, que penseriez-vous, par exemple, Marie-Laure Colonna, de la déclaration de certains améthystes qui déclare que lorsqu'un homme et une femme se connaissent charnellement, d'une certaine manière, c'est le symbole de la relation d'amour de Dieu vis-à-vis de sa création.
Je trouve que c'est une très très belle façon de parler, et je pense qu'on peut tout à fait dire ça. Ce serait peut-être justement le message très profond du Cantique des Cantiques, qu'il soit vécu sur le plan symbolique pour certains, qu'il soit vécu sur le plan plus charnel pour d'autres, ou encore comme un va-et-vient entre la chair et l'esprit. Ça me paraît très très profond. Ça me paraît surtout quelque chose à advenir pour les prochains siècles, quelque chose qui serait le chemin vers lequel nous pouvons nous diriger, parce que ce n'est absolument pas ce qu'en gros, en général, vivent les couples aujourd'hui.
Une des façons, c'est pas la seule, de parler de cette jouissance autre qu'une femme dont une femme fait peut faire l'expérience, c'est peut-être lié à la disponibilité d'accéder à ce lieu d'être qu'est l'intime, ce qu'il y a de plus intime. Peut-être, moi j'aime bien le terme de visage. Qui nous vient de Levinas, qui lui-même le tient d'autres, pour évoquer cette présence intime à laquelle nous ne pouvons pas avoir rapport avec le langage, mais auquel nous pouvons avoir accès par l'expérience de cette jouissance. Il n'y a pas d'autre, on pourrait dire, baromètre, pour avérer cette rencontre. On pourrait dire que ce qui se passe dans cette rencontre pré-objectale, c'est-à-dire que les psychanalystes hongrois ont été les premiers à quêter, c'est une expérience qui va au-delà de la notion d'être et d'apparaître, c'est-à-dire au-delà de la notion de ce qui apparaît sous le regard ou ce qui se ferait entendre du dedans, qui au-delà du dedans, dehors, il y aurait un mixte que Lacan nomme l'extime, et que cette jouissance serait l'expérience de rencontre de cette, on pourrait dire, cette langue secrète, cette signification secrète qui ne parle pas encore, cette langue muette qui ne parle pas, et qui néanmoins demande à être entendu ou vu. Ça, c'est un petit peu le mythe de Tirésias, qui a été puni parce qu'il a révélé que l'expérience de cette jouissance, quand on la connaît, la déesse était furieuse contre lui, qu'il ait révélé que cette jouissance, l'intensité de cette jouissance, qu'il en ait parlé, parce que pour une femme, c'est quelque chose qui doit demeurer privé, et si on le publicise, elle perçoit quelque chose qui mérite une punition.
C'est elle, les vivants et les dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Marie-Laure Colonna et de Alain Didier Velle. Texte lu par Catherine Matelli, mixage Jean-Michel Coqui, réalisation Isabelle Huel.
Cette émission a été diffusée la première fois le 10 avril 2004 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.